Quand on parle de baisse d'impôts, il faut dire exactement, je vous ferai le calcul de ce que ça représente, Monsieur Garganek, par habitant.
D'accord. Madame Bourdier, vous voulez reposer une question? Oui. Madame, non, Madame Delphine Bonin, pardon.
Oui, Madame le maire. Le débat d'orientation budgétaire est un moment important de la vie démocratique de notre ville. C'est un moment important d'échanger de débats, nous le voyons ce soir, de désaccords parfois, exprimés de manière sereine. Et c'est le moment où vous exprimez les choix politiques que vous faites pour cette ville et que vous affichez pour l'année 2021. Un moment important. Donc la présentation est bien faite comme à l'accoutumée. Donc je m'associerai également au remerciement de M. Garganek pour les services dont nous saluons une fois encore le sérieux et le travail et qui permettent à chacun d'exercer son mandat dans les meilleures conditions. À la lecture de ce rapport, notre groupe note plusieurs éléments sur lesquels d'ailleurs vous êtes revenu, Madame le maire. Beaucoup d'investissements nouveaux alors que de nombreux investissements sont en cours. Que ces investissements nouveaux sont prévus parfois sans que le projet nous apparaisse clairement ou que les besoins soient forcément précisés. Nous avons aussi quelques obsessions au niveau de notre groupe. Nous pensons au Petit Théâtre, notamment, pour lequel nous sommes dans l'attente d'un projet culturel présenté lors d'un conseil. Nous pensons aussi aux annonces dans la presse, toujours il y a quelques mois, de la rénovation des cours de tennis et dont M. Vernier vient de parler. Nous notons également des prévisions plutôt optimistes de recettes, avec des subventions prévues quasiment systématiquement à 80%. Ne vous méprenez pas, c'est tout ce que nous souhaitons, évidemment. Une baisse du taux d'imposition pour neutraliser l'effet d'augmentation des bases, qui peut effectivement s'apparenter à un effet d'annonce, en tout cas dont nous prenons note. Si vous me permettez un trait d'humour, j'allais dire, il faudra nous donner la recette. En effet, nous nous interrogeons sur les fonctionnements induits par les nouveaux équipements, alors que la ville gère déjà un patrimoine immobilier et bâtimentaire important. Nous nous interrogeons sur les marges de manœuvre en termes de fonctionnement, alors que bon nombre d'actions se poursuivent. Mon collègue parlait de continuité, que de nombreux autres projets sont annoncés par votre majorité. Vous nous avez parlé, par exemple, de Pomeil en préambule à ce conseil. Nous nous interrogeons aussi sur l'effet, le fameux effet ciseau, bien connu, et auquel Guéret, bien sûr, n'échappe pas. J'allais vous dire, qu'est-ce que vous ne ferez pas? Si nous devions résumer la position de notre groupe, nous pourrions dire, et vous ne serez pas surprise, Madame le maire, que nous nous interrogeons sur vos priorités, que ce ne sont pas forcément les nôtres. Et je ne vous apprends rien. De notre point de vue, il y a sans doute trop peu sur le centre-ville, alors que nous considérons que c'est un enjeu essentiel pour notre territoire. De notre point de vue, il y a trop peu pour renforcer visiblement et durablement l'attractivité de ce cœur de ville. Je prendrai pour exemple les investissements publics qui vont être déployés pour rénover l'habitat en centre-ville, je pense à l'OPA RU, qui vont représenter plusieurs millions d'euros sur les 5 prochaines années, et nous déplorons que la ville n'accompagne pas plus largement ce mouvement, en s'appuyant notamment sur le projet stratégique Guéret 2040. Vous en serez d'accord, c'est bien par des actions multiples et combinées des acteurs publics que l'on peut espérer une revitalisation réelle du cœur de ville et espérer une transformation réelle de l'espace urbain. Trop peu, rien ou presque pour redonner une harmonie à la ville. On pense l'harmonie entre les équipements au sein de l'espace urbain. Ça a été un peu l'objet d'ailleurs de nos échanges au sein de la commission urbanisme de cet après-midi. Trop peu pour répondre aux enjeux environnementaux de notre point de vue et les rendre visibles, notamment en centre-ville. Ça a également pu faire partie des échanges que nous avons pu avoir en commission développement durable. En un mot, et pour finir, nous ne percevons pas tout à fait dans vos propos comme à travers ce rapport d'orientation budgétaire ce qui inscrirait pour nous cette ville dans la modernité et la transition écologique comme nous le souhaiterions. Ce qui rendrait cette ville désirable aux nouveaux habitants potentiels comme à ceux qui vivent là depuis longtemps.
Merci, Madame Bourdier.
Oui, alors Monsieur Vernier s'est exprimé, bien sûr, et en sa qualité d'ancien maire, je trouve qu'il l'a fait avec beaucoup de légitimité et une grande clarté sur les enjeux qui ont conduit son action passée et dans la continuité dans laquelle vous vous situez. Je suis la première aussi à penser que cette continuité, dans un premier temps, notamment la situation dans laquelle nous sommes, est nécessaire et qu'elle est bienvenue. Voilà. Ceci dit, c'est une continuité que je juge prudente. Peut-être me rassure-t-elle, mais est-elle seulement liée au contexte d'exception dans lequel nous sommes ? Pour moi, la prudence ne peut être la seule réponse à tous ceux qui attendent de vrais changements dans la physionomie de notre ville. Je pense bien sûr tout particulièrement à ceux qui y vivent malheureusement le plus mal. Pour nous, il faudrait aller plus vite et plus fort dans la réhabilitation et l'animation des quartiers et financer un vrai lien entre le haut et le bas de la ville. Deuxième remarque, votre analyse rétrospective évoque légitimement la question de la centralité de Guéret qui implique des charges importantes dans notre ville. On s'attend donc à retrouver plus précisément et plus clairement dans vos orientations budgétaires la façon dont vous comptez, ou non, établir un rééquilibrage entre les finances locales, villes et périphéries. Troisième remarque, la nécessité de contraindre les dépenses de fonctionnement en lien avec la diminution des recettes, que je partage, et la nécessité de dégager des marges d'autofinancement n'échappe à personne. Cependant, réaliser des économies sur les charges de personnel ne peut pas ne reposer que sur des départs en retraite non remplacés. Quid de l'anticipation d'une éventuelle mutualisation ?
Bien, j'ai pris note de toutes ces questions, donc on va bien entendu en tenir compte dans notre travail sur le BP. Juste pour répondre en deux mots à Madame Bonin, l'opération Cœur de Ville nous prend énormément de temps et d'énergie. On sort tout juste des études multiples qui ont été lancées sur... la charte urbaine, sur la signalétique, sur l'urbanisation du cœur de ville. La ville intervient déjà sur plusieurs opérations qui sont onéreuses, l'opération façade, l'achat de cellules commerciales, l'aide à la rénovation des cellules commerciales, l'aide au loyer pour les commerçants. Ce ne sont que des exemples de toutes les choses que nous allons mettre en place. Nous collaborons bien sûr à l'OPARU qui est menée par l'agglo sur le cœur de ville. Donc je pense que c'est un dossier qui est extrêmement complexe et qui nécessitera qu'on ait dans ce conseil municipal un dialogue spécifiquement dédié à l'action cœur de ville. On a encore beaucoup de choses, je pense, à mettre en place et à lisser avec la com d'agglo, puisqu'il y a une cohérence entre la rénovation des appartements et la rénovation des cellules commerciales. Donc on est en train d'y travailler, mais c'est un sujet qui nous occupe énormément et qui est loin d'être oublié, y compris sur le plan budgétaire. Donc si vous le souhaitez, maintenant qu'on a l'intégralité des études, on va pouvoir vous proposer un bilan complet de ce qu'ont donné ces études et aussi de la façon dont on se projette avec l'agglo sur ce cœur de ville. Voilà. Donc j'ai bien pris note de ce que M. Vernier et Mme Bourdier aussi nous avaient noté. Donc je vous propose les charges de centralité, la mutualisation. La mutualisation, c'est aussi un sujet qu'on est en train tout juste de commencer à travailler avec l'agglo, puisqu'on a un vice-président qui est à ma gauche, qui est chargé de la mutualisation. C'est un sujet d'actualité. Et là aussi, on va pouvoir, je pense, dans quelques temps, vous faire un retour de ce travail. On y travaille très fort, non seulement la mutualisation des personnels, mais aussi la mutualisation des services. Et c'est effectivement une des voies d'avenir sur laquelle on doit s'engager pour limiter les dépenses, mais aussi assurer une optimisation des services qu'on rend à la population. Voilà. Pardon, Monsieur Vernier.
«
sur les charges de centralité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. À l'époque où on les avait évalués, ça représente une somme importante, probablement moins aujourd'hui, mais quelque chose qui dépasse les 500 000 euros pour la ville du Guéret. Donc, vous avez parlé du scolaire. Et Dieu sait si vous avez raison. Mais par contre, lorsque vous vous adressez, je dis juste ça pour ne pas s'embarquer sur une fausse piste, quand vous vous adressez à une commune amie qui a une école, alors les communes qui n'ont pas d'école, elles s'en moquent. D'ailleurs, elles payent pour les enfants de leurs écoles dans un regroupement pédagogique. Elles ne payent pas la ville de Guéret. C'est paradoxal, mais ça existe si vous regardez ce qui se passe autour de Saint-Victor, par exemple. Bon. Mais lorsque vous adressez un maire pour lui dire « J'ai 40 ou 50 enfants de chez toi qui viennent dans les écoles de Guéret et je vais facturer les frais de scolarité », il vous répond « Mais moi, j'ai des places dans mon école. Donc, je ne paierai pas les charges. La loi dit, la loi n'oblige pas, contrairement à ce qui est dit. » Mais je fais confiance à Guillaume pour vérifier tous ces problèmes-là. On ne peut pas obliger à le faire, sauf quand on n'a pas d'école. Mais quand on a une école, et puis alors vous allez avoir les parents qui vont vous dire « Oui, moi je travaille à Guéret. » Et puis vous allez avoir les enseignants qui vont vous dire « Oui, mais s'il y a 30 ou 40 gamins qui partent, on va perdre 2 ou 3 postes. » Donc, c'est juste. Moi, je partage votre sentiment. Je voudrais que vous ayez conscience de ce que je vous dis là. D'ailleurs, je rappelle que la piscine, c'était plus de 200 000 euros. Voilà, plus de 200 000 sur les 410 000 de déficit payés par la ville de Guéret pour les habitants, les gens qui n'étaient pas guérés. Donc, il y a, oui, Sylvie a parlé de mutualisation, de choses comme ça. Juste, moi, je veux bien vous aider là-dessus, avec prudence, parce que ce n'est pas aussi facile qu'on peut le croire. Sinon, ça serait une bonne nouvelle pour la ville de Guéret si elle ne payait pas des charges de centralité. Mais c'est le problème des préfectures et des villes-centres en général qui ont beaucoup de charges de centralité, qui là aussi, monsieur l'adjoint aux finances, aidez-moi, là aussi ne sont pas compensées par l'État. Et ça non plus, il devrait y avoir une dotation faite par l'État pour les charges de centralité des préfectures. Ce n'est pas fait, ce n'est pas normal.
L'idée, c'était de s'interroger sur ces charges de centralité qui, en plus, ne sont pas forcément les mêmes quand il s'agit d'école ou quand il s'agit, vous l'avez dit, par exemple, de la piscine. On sait qu'il est très délicat de travailler sur les charges de centralité en matière d'école parce qu'on peut aussi être amené à faire disparaître une école, des classes. Donc, c'est un problème qui est important. La piscine, les Guéretois ne sont que pour un tiers des utilisateurs de la piscine, un tiers club d'agglo et un tiers hors agglo. Donc on a quand même des questions peut-être à se poser, au moins sur la facturation des entrées pour les personnes qui ne sont pas de l'agglo, à minima. Voilà, donc l'idée c'est plutôt de se poser le problème et après raisonnablement, effectivement, de voir ce qui mériterait qu'on puisse travailler sur des tarifs différentiels ou pas. Monsieur Correa voudrait le micro, Élodie. Monsieur
Correa. Juste, effectivement, je souscris à ce que dit Michel Vernier tout à l'heure. 30 000 euros ou 50 000 euros de recettes en moins pour la collectivité, ça n'est pas rien en termes de dotation. Et je pense malheureusement que des baisses de dotation auront aussi lieu ailleurs, dans d'autres collectivités. Et on ne peut pas, bien évidemment, s'en réjouir. Juste un petit mot par rapport au centre aqualudique. Vous avez prévu, effectivement, alors je ne sais pas comment l'appeler, centre aqualudique ou piscine intermédiaire, entre deux, en tous les cas, 4 millions d'euros. J'ai rien à rajouter à ce que vous avez dit par rapport aux discussions en cours qu'il va y avoir, notamment sur le mois de mars. Et on espère que chaque collectivité y voit plus clair, parce que c'est comme ça qu'on prendra les meilleures décisions possibles. Juste dire qu'effectivement, il n'y aura pas deux futures piscines sur le territoire. Hein. Il y aura une piscine qui va être intermédiaire à un moment donné, en attendant la nouvelle. Et je ne sais pas à ce jour quelle sera et comment, mais en tous les cas, on en discute. Par contre, une chose, c'est clair, c'est que dans le projet du futur centre académique, alors il est appelé comme ça, parce que c'est maintenant comme ça qu'on doit l'appeler pour avoir le plus de subventions possible. Il y avait 6 millions d'euros dans le cadre du plan particulier pour la Creuse et 2 millions d'euros de la région, ce qui fait 8 millions d'euros, et que vous inscrivez 4 millions d'euros pour un bassin temporaire avec 80% de financement. J'espère que ces financements que vous pourrez obtenir ne seront pas au détriment des aides qu'il y aura pour le futur centre, parce que sinon la question va très vite malheureusement se régler. Voilà. Nos finances, quelles que soient les collectivités, ne sont pas extensibles. Jamais oublier non plus que derrière tous les investissements que l'on fait, il y a des dépenses de fonctionnement supplémentaires qui s'ajoutent. Donc on se doit aussi de penser à tout ça. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une inquiétude qui nous anime à l'agglo et à la ville. Là-dessus, il n'y a pas de souci, mais en tous les cas, on ne pourra pas prendre dans une enveloppe au détriment d'un projet. Ça, c'est évident.
Alors, les 4 millions d'euros, c'est la dotation maximale qu'on a voulu inscrire, effectivement, pour savoir un petit peu où on allait, mais c'est vraiment la structure principale. Sur le plan particulier pour la Creuse, j'ai été la première, effectivement, à partager à l'agglo mes inquiétudes sur le fait que l'État ne financerait sûrement pas, dans un court laps de temps, deux équipements. Bon, par contre, nous avons eu des garanties du ministère sur l'aide qu'il pourrait nous apporter sur une structure intermédiaire, dans la mesure où l'apprentissage de la natation est une des priorités du ministère actuellement. Le plan natation est un plan fortement doté. Et le fait qu'on soit ville de préparation olympique nous aide aussi à avoir des fonds particuliers du ministère. Donc on attend d'avoir un plan de financement qui soit arrêté pour pouvoir effectivement voir de quoi, à quelle hauteur on va être aidé, sans forcément fonctionner le plan particulier pour la Creuse. Mais c'est une inquiétude qu'effectivement on a eue, parce que le plan particulier pour la Creuse n'aura qu'un temps. Et d'ici là, où en sera-t-on des premiers travaux du centre aqualudique? C'est une question qu'on partage. On n'a aucune raison d'habiller Pierre et de déshabiller Paul. Hein. C'est absolument pas notre idée. Par contre, il faudra qu'on trouve une solution rapide pour les enfants de Guéret et de l'agglo, pour ne pas les empêcher d'apprendre à nager. Mais on fera un point des subventions dès qu'on aura un plan de financement qui sera arrêté, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres? François Vallès.
Tant qu'on est sur les charges de centralité, je voudrais essayer moi de donner une petite vision d'avenir quand même de notre politique. Un des principaux problèmes au réenchantement du centre-ville, c'est les voitures. Et c'est une charge de centralité parce que les voitures d'Enguerré, on le sait tous pertinemment ici, ce sont d'abord les salariés de l'extérieur qui viennent travailler d'Enguerré. Le dimanche, il n'y a personne sur le parking de la place Bonnier. Et je voudrais juste faire noter un petit point. On va donc racheter le parking Enedis dans la continuité de ce qui était déjà plus ou moins prévu par vos politiques antérieures. Et moi, je trouve que c'est un acte qu'on ne remarque pas assez, mais qui est assez fort quand même dans l'idée sur les 6 ans à venir, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette ville de Guéret en termes de réenchantement. On parlait de parcours vélo, soyons sérieux, le parcours vélo en centre-ville actuellement, entre les trottoirs, la petitesse des rues, c'est quand même extrêmement difficile de tracer quelque chose. Commençons déjà avec les voitures et essayons d'avancer petit à petit vers justement ce réenchantement du centre-ville.
Il n'y a plus d'autres interventions? Bien, donc je vous demande donc de prendre acte de la préparation de la présentation de ces orientations budgétaires, donc en rappelant que l'élaboration du budget vous sera proposée aussi, on vous associera autant que vous le souhaiterez sur cette élaboration, et donc on prendra compte des remarques qui ont été faites dans la salle ce soir. Monsieur Gargadenec, pour l'attribution donc des subventions aux associations, Donc, peut-être en précisant juste en entrée que nous avons souhaité maintenir le niveau des subventions 2020 à cause du contexte sanitaire. Il nous était extrêmement difficile de savoir dans quelle situation se trouvaient les associations et même pour elles, il était difficile de pouvoir justifier du poids du contexte sanitaire sur leur situation budgétaire. Donc, une analyse plus fine sera faite en 2021. Avec en plus le travail qui sera finalisé sur les critères d'attribution des subventions et sur la collaboration avec le monde associatif. Donc ce que va vous présenter M. Gargadenec est plus ou moins dans la lignée de ce qu'il y avait eu jusqu'à présent. Vous nous direz si vous souhaitez voter les subventions globalement ou si vous souhaitez les voter individuellement, ce qui est tout à fait possible dans cette assemblée.
Donc le monde associatif contribue aux activités sportives, sociales, artistiques et culturelles de par son dynamisme et son implication dans la vie locale des Guéretois. Les associations d'intérêt local doivent pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions dès le début de l'année. Donc c'était aussi de mémoire une remarque qui nous avait été faite, de dire que les subventions ne pourraient pas être versées avant longtemps alors qu'elles vont l'être dans le cadre de la présente délibération. C'est pourquoi, pour l'année 2021, après étude des dossiers de demande de subvention transmis par les différentes associations et organismes, il est proposé aux membres du conseil municipal d'accorder les subventions figurant dans le tableau en annexe au titre de l'exercice 2021, d'autoriser Madame le maire à signer les conventions pour les associations dont la subvention est d'un montant supérieur à 23 000 euros, en application donc du Code général des collectivités territoriales et afin d'écarter tout risque de conflit d'intérêts. Là aussi, c'est un point de vigilance qu'il faut avoir à tout niveau, prévenir les conflits d'intérêts entre les personnes qui sont bénéficiaires des aides et les organes de décision. Donc il est précisé que les conseillers suivants, présidents ou membres de conseils d'administration ou de bureaux d'associations ou organismes, ne prennent pas part au vote. Donc, M. Guillaume Vénois, au titre de la subvention à l'association Entente sportive guéretoise, M. Damien Monteil, au vote de la subvention à l'association Adas Musique, et M. Benoît Lascou, au vote de la subvention à l'association Guéret Variété.
Je rajouterai donc M. Emroy Vili et M. Vallès au titre de l'entente, puisque l'un est capitaine et l'autre éducateur, et puis donc Madame Martial Robert, qui ne participera pas au vote de la subvention attribuée à l'ESCAL, puisqu'elle est trésorière de cette association. Voilà. Donc, est-ce que vous souhaitez voter globalement les subventions qui vous sont proposées sur le tableau en annexe, ou est-ce que vous avez des points particuliers à évoquer, Monsieur Correa?
Madame le maire, moi, personnellement, ça ne me gêne pas de voter globalement les choses, en faisant bien effectivement la distinction que vous avez faite au préalable des gens qui n'ont pas à prendre part au vote. Mais j'aurais juste une question, c'est par rapport à la subvention à la société de chasse, à la SACA de chasse, parce que l'agglo aussi finance, et je ne suis pas sûr que juridiquement, et David de Guéret et l'agglo peuvent apporter une contribution financière. Voilà, donc c'est plus d'un point de vue juridique, légal, qu'il faudrait vérifier, parce que sinon, nous, on est prêts à vous la laisser, mais historiquement, ça avait été transféré à l'agglo, parce que à l'origine, il y avait même la CCA de Guéret et la CCA de Sainte-Fère. C'était par rapport à la pratique, mais Michel, plus de même, parce que ça date d'il y a tellement longtemps, cette subvention. C'était la CCA de Sainte-Fère et de Guéret au début, puis après ils se sont séparés, ce qui fait que la subvention avait un petit peu diminué, mais c'était par rapport au fait que pour pouvoir effectivement utiliser les bois pour les sports nature et notamment le VTT, eux louent et versent une contribution donc à l'ONF, on compensait ça. Donc c'est suite au transfert du VTT qui avait été fait, donc ça fait au moins 20 ans. Voilà, donc à l'origine, moi, Michel, je ne sais pas, tu te rappelleras mieux de moi, mais est-ce que ça a été un transfert de compétences ou pas? En tous les cas, si c'est un transfert de compétences, la subvention n'est pas possible.
Il y a une convention tripartite entre la société de chasse, la Comme d'Aglo et la ville de Guéret, pour effectivement préserver leur location de ce terrain de chasse qui coïncide aussi au terrain d'entraînement du VTT. Alors, historiquement, on donnait 800 euros et la com d'aglo dans les 1600, je crois.
2500,
je m'excuse. Et donc là, sur ce décompte, vous avez 2 fois 800 parce que l'année dernière, effectivement, elle n'a pas été versée. Donc on est sur 2020 et 2021.
D'accord.
Mais c'est une convention tripartite. Alors après, moi, je veux bien qu'on regarde effectivement la régularité des choses, s'il y a un petit doute.
Moi, si c'est possible, ça me pose pas de problème. Hein.
Non.
Mais il faut pas que que la somme des deux soit au-delà du coût de location. Enfin,
en fait,
faut qu'on fasse attention à ça.
C'est le coût de location hein, sur ce qu'ils m'ont montré. C'est vraiment, on paye l'intégralité du coût de location.
Non, mais c'est juste ce point-là. Parce que c'est...
Madame Bonin, Madame Martial, après. Robert.
Oui, j'avais juste une question sur la disparition de la subvention, en tout cas par rapport à l'an dernier, à la Caisse des écoles. Sur le volet action scolaire et périscolaire, si vous pouvez nous en dire un mot, parce que j'étais un peu surprise.
En fait, on en a déjà parlé sur un conseil municipal précédent. La Caisse des écoles, en fait, est une coquille vide, où il n'y avait absolument plus aucun financement, si ce n'est le programme de réussite éducative, qui a été transféré au CCAS pour un suivi plus de proximité. Mais donc, on n'a absolument aucune subvention, aucune demande, et on n'a rien à l'intérieur de la Caisse des écoles, qui est même, je pense, amenée à disparaître au fil du temps.
Alors, voilà. C'est ce qui me semblait. Il me semblait avoir entendu lors d'un précédent conseil que vous aviez évoqué cette disparition. Alors, moi, je m'interroge déjà sur le fait que je suis membre de la commission Caisse des écoles, qui, du coup, n'a pas été réunie. Il ne me semble pas, en tout cas. À mon avis, le débat pourrait avoir lieu au moins dans cette commission. Ça me paraît important. Sur la coquille vide, moi, je ne partage pas complètement cette analyse, parce que c'est un débat qu'on a pu avoir sur la mandature précédente, parce que c'est très lourd, effectivement, en termes d'animation. Mais il me semble que c'est un élément important de démocratie participative, et je sais que vous y êtes attaché, puisque ça a été des éléments importants de votre campagne. Et la Caisse des écoles, c'est le seul moment où les parents d'élèves de toute la ville, avec des membres de l'opposition, avec des membres de la majorité, avec éventuellement des membres de l'éducation nationale, ont l'occasion en fait de discuter des projets pédagogiques sur la ville. Donc voilà, la décision me paraît peut-être un peu radicale et brutale, et je trouve qu'on aurait pu en discuter en commission Caisse des écoles peut-être. En tout cas, il me semblait avoir entendu ça, j'ai pas vu de délibération allant vraiment en ce sens. Donc voilà, je m'interrogeais, et en le voyant disparaître de cette dotation aux associations, je vous pose la question effectivement officiellement.
Alors, on en rediscutera si vous le souhaitez. Hein. Le dialogue est ouvert. Je vous rappelle seulement que sur les représentations du conseil municipal, sur les différentes instances extérieures, on a ensemble, et on retrouvera la délibération, mais on peut tout à fait revenir dessus, décidé de ne plus mentionner la Caisse des écoles. Donc, on n'a plus de représentants. La Caisse des écoles n'a fait aucune demande de subvention. Et on avait bien, effectivement, discuté de la disparition de cet organisme. On retrouvera les délibérations, et on en rediscutera si vous le souhaitez sur la commission démocratie participative. Il n'y a pas de problème. Vous voulez dire un mot, Madame Ferreira et...
Alors oui, concernant la Caisse des écoles, effectivement, le dispositif en lui-même disparaît parce qu'il ne sert plus à grand chose. Par contre, au niveau comptable et au niveau budgétaire du service éducation. Cette somme est bien reportée pour les écoles.
Oui, je précise qu'effectivement, c'est une disparition purement comptable, en fait. Hein. C'est-à-dire que là où on identifiait une subvention versée à la Caisse des écoles, c'est sur le budget général de la mairie de Guéret que désormais nous interviendrons en faveur des écoles. Donc il n'y a pas de disparition de ces fonds, ils font l'objet juste d'un ajustement au niveau comptable.
Alors mon inquiétude n'est vraiment pas sur les fonds, vraiment pas. Hein. Mon inquiétude est sur, j'avais déploré déjà lors de la première séance du conseil municipal l'absence d'adjoints dédiés à l'éducation et de commission éducation. Et pour moi, cette commission Caisse des écoles, en tout cas, pouvait faire office d'une instance de dialogue avec les parents d'élèves, avec les citoyens, en fait. Hein, parce que les fonds, vraiment, ne m'inquiètent pas. Ce que je trouve intéressant, c'est ce regard un peu extérieur et croisé autour des sujets liés à l'éducation. La coquille vide, etc., c'est une analyse peut-être un peu rapide. Le système est lourd à animer, ça, moi, j'en conviens, hein, pour avoir animé la Caisse des écoles. Il est sans doute à améliorer. En tout cas, on peut peut-être s'interroger collectivement comment associer les citoyens au sujet autour de l'éducation. Je crois que c'est un sujet important. On a les conseils d'école, mais c'est par école. Et c'est assez différent parce que le volet pédagogique est très présent. La Caisse des écoles, c'était vraiment le moment, justement, de prise de conscience, notamment de parents d'élèves, de ce qui se passait sur l'ensemble des écoles de la ville. Et c'était une façon de valoriser ce qui se passe sur la ville. Donc, je n'ai vraiment pas d'inquiétude sur les fonds. Je vous fais confiance. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Je trouve que cette instance démocratique est importante, en tout cas. Voilà. Et du coup, je regrette peut-être de ne pas être intervenu plus vivement. J'ai eu l'impression d'entendre ça. Je n'ai pas réécouté tous les procès-verbaux. Moi, je suis pas. Voilà, j'ai regardé les procès-verbaux écrits, en fait. Je n'ai pas retrouvé trace vraiment de. J'ai retrouvé trace de ma nomination à cette Caisse des écoles en septembre, je crois, dernier. Donc, je trouve que ça mérite en tout cas de se reposer la question, en l'absence de commission éducation notamment.
Madame Robert souhaitait s'exprimer. Élodie, Madame Robert.
Moi, j'aurais voulu savoir, l'association Alcool Assistance Creuse a-t-elle demandé une subvention, comme d'habitude ?
Toutes les subventions qui ont été demandées sont ici. On n'a pas refusé de subvention. On ne vous a seulement pas mis ceux qui avaient été subventionnés l'année dernière, mais qui n'avaient pas fait de nouvelles demandes.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Mais on n'a pas refusé de subvention du tout cette année.
D'accord. Je vois également donc Action Quartier, donc c'est en réserve.
Oui, c'est en réserve en attendant qu'on n'ait plus mettre au point notre dispositif de démocratie participative et le rôle d'Action Quartier, qui a été complètement bouleversé par les règles liées à la Covid. On ne peut pas faire de réunion, on ne peut pas avoir de contact direct globalement avec les quartiers, et on souhaiterait reprendre le dispositif du départ, c'est-à-dire commencer par des réunions globales des habitants des quartiers et après voir de quelle émanation ils souhaiteraient pouvoir disposer. Donc Action Quartier, c'est en réserve. Quand ça devrait être lancé, ça le sera. Voilà. Véronique, tu veux dire un mot ?
Non. De toute façon, oui, Action Quartier, les membres de cette association sont les représentants des conseils de quartier. Donc, tant que ces derniers n'auront pas été réélus, Action Quartier, malheureusement, là, à l'heure actuelle, ne peut rien faire.
Est-ce que vous avez déjà une idée quand vous pourrez éventuellement relancer donc, l'activité ?
Dès que la Covid nous permettra de refaire des réunions de quartier, on les fera. On a préparé le contexte, on en a travaillé en commission, on l'a travaillé en commission démocratie participative. Maintenant, ce qui nous manque, c'est le contact avec le public, et on ne souhaitait pas le faire par courrier ou sous d'autres modes qu'un contact direct, au moins tout au début. Voilà. Dès que la Covid nous le permet, on lancera les réunions de quartier.
Voilà. Et moi, je voulais juste rajouter, excusez-moi, Madame Bonin, qu'il y a une commission éducation jeunesse qui fait partie aussi de la commission démocratie participative, dont Madame Coinda fait partie en remplacement de Marie Combeau.
Et avec une déléguée à l'éducation spécifique qui est Madame Vadic.
J'aurais une dernière question concernant le comité de jumelage. Dans la subvention de 7 000 euros, donc, est-il prévu donc, pour Zintenga également ?
Oui, ils nous ont fait la demande uniquement pour la partie Stein, et on doit les rencontrer, d'ailleurs je crois que c'est la semaine prochaine, sur leur action au Burkina Faso, et à ce moment-là, donc, on reverra aussi un complément qui a été mis en réserve. Hein. Mais leur demande là-dessus ne nous est pas encore parvenue. On s'en est limité pour le moment avec eux à la partie Stein.
D'accord. Bien. Merci.
Monsieur Delettre.
Oui, j'avais trois questions. D'abord, s'agissant... Alors, je précise que je suis très, très proche des membres du SAM TRI, pour que les choses soient claires. Est-ce que les 6 800 euros de subvention correspondent à la demande qu'ils ont faite?
Je n'ai pas compris de quelle association vous parlez.
Le SAM, Sport Athlétique Marchois, Athlétisme et Triathlon.
Absolument.
D'accord, ok.
Absolument. Très bien. On a revu à la baisse aucune subvention et on a refusé aucune subvention qui nous était demandée. C'est le principe qu'on a appliqué cette année au vu des circonstances.
D'accord. J'observe aussi que à Guéret, on a donc 2 clubs de tennis pour 13 000 habitants et qu'il nous faut subventionner les 2.
Alors, on a beaucoup travaillé.
Oui.
Trois, en fait.
Il y a EL Tennis aussi.
Non, Monsieur Pingot complétera s'il le souhaite, mais en fait, on a fait le maximum pour essayer de faire en sorte que ces clubs puissent n'en faire qu'un, d'autant plus qu'on n'avait pas exclu qu'ils puissent prendre la gestion du centre tennistique, ce qui nous aurait, je pense, ce qui aurait été tout à fait favorable à la pratique. Et en fait, on n'a pas réussi à faire en sorte que ces clubs s'unissent. Et donc, on a 3 clubs, mais dont le troisième a très, très peu d'adhérents. Hein, et on a 2 clubs principaux qui se partagent le centre tennistique. Donc, c'est la liberté associative.
Oui, oui, mais bon. Je pense que globalement, si on pouvait attribuer une seule subvention pour un club, sans doute qu'il y aurait moins de déperdition de moyens. S'agissant des aides au commerce et aux services marchands, alors je précise aussi pour ceux qui l'ignorent que je suis quand même évidemment très proche du président de l'association 23 000. Il me semble que cette association est tout de même sensiblement plus dynamique que l'association Boutique Cœur de Guéret en matière d'animation du centre-ville. Aussi, je m'étonne que la subvention qui lui soit attribuée à l'association 23 000 ne soit que de 500 euros, tandis qu'elle est de 1 000 euros pour les boutiques Cœur de Guéret.
Alors, je le répète, on a attribué ce qui nous avait été demandé. On peut faire la même remarque considérant les actions humanitaires. Entre les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire, il y a des différences aussi qui ne sont pas forcément justifiées dans la pratique. Ça correspond à la demande. Et je rappelle que pour l'association 23 000, la ville de Guéret, avec votre accord, a subventionné des affiches pour les commerçants. Donc cette année, ils ont eu une subvention exceptionnelle de 800 euros en plus. Donc, on a aussi gardé quelques réserves pour des actions exceptionnelles de part et d'autre. Mais donc, ça correspond strictement à la demande de l'association. Est-ce que sur cette partie-là, on a d'autres questions? Alors, je vous propose de passer au vote. Donc, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Je vous remercie. Monsieur Gargadenec. Donc l'affectation du legs de Monsieur Lagarrigue, qu'on a déjà abordé un petit peu tout à l'heure, qu'on peut faire peut-être un peu rapidement.
Oui, concernant le legs donc de Monsieur Lagarrigue, conformément aux vœux de M. Lagarrigue dans son testament, d'affecter effectivement cette somme à des personnes âgées. J'en ai parlé effectivement dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Nous avons pris la décision de fractionner ce montant pour constituer sur une période de 6 ans un montant de 229 285,35 euros qui viendrait chaque année, donc pendant ces 6 années, alimenter le centre communal d'action sociale. Ceci afin d'être en conformité par rapport aux vœux de M. Lagarrigue. Donc en fait, il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer donc sur cette proposition.
Madame Robert.
Nous aurions voulu savoir si cette somme viendrait en déduction de la dotation de la mairie.
Oui, c'est-à-dire elle ne vient pas en plus. Voilà, donc effectivement, elle va permettre de venir alimenter effectivement la subvention du CCAS, mais évidemment, ce ne sont pas 200 000 euros en plus de la subvention habituelle, sachant que de mémoire, la subvention du CCAS, il est prévu qu'elle augmente d'ailleurs cette année, si j'ai bien compris, de mémoire, enfin, il était prévu dans les premiers éléments une légère augmentation. Donc évidemment, cette subvention ne vient pas en plus, ce qui ferait un montant effectivement extrêmement important.
D'autant plus que notre compétence en matière de personnes âgées est quand même relativement limitée. Et donc, bon, c'est le CCAS qui nous semblait le plus judicieux. Je ne vois pas où on aurait pu l'affecter autrement. Et c'est vrai que bon, si ça nous aide à pouvoir développer le café des aidants, les choses de ce type-là qui marchent extrêmement bien, on en sera ravis. Et effectivement, la subvention au CCAS augmente cette année. La raison en est simple, avec l'augmentation de la précarité, le CCAS a eu d'autant plus d'interventions à faire. Mais voilà, donc on s'est dit que ça serait l'endroit le plus judicieux pour utiliser cette donation. Et bien entendu, on va trouver une façon de remercier la famille de M. Lagarrigue et on mettra au CCAS une plaque pour remercier pour ce don. Voilà. Bien. Y a-t-il des questions supplémentaires sur cette décision? Donc, il vous est proposé de répartir cette somme sur 6 ans au bénéfice du CCAS. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Pingot, pour les modalités de remboursement des tarifications des activités municipales, culturelles et socioculturelles, dû bien entendu au contexte sanitaire.
Alors, oui. Suite au décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020 et à ses modifications successives visant à ralentir la propagation de la Covid-19, la ville de Guéret a été contrainte de fermer certains bâtiments municipaux et a arrêté certaines activités. Pour les services concernés, il est proposé de réaliser les ajustements suivants sur les conditions tarifaires en vigueur. Pour l'espace Fayol, de valider le règlement du premier trimestre 2020-2021, compris entre le 14 septembre et le 31 décembre 2020, et de ne pas facturer le deuxième trimestre aux adhérents. Toujours pour l'espace Fayol, de rembourser le deuxième trimestre 2020-2021, compris entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021, aux adhérents qui l'ont réglé. Concernant la guéretoise de spectacle, les spectacles du premier confinement du 17 mars 2020 au 13 juin 2020, les remboursements se feront jusqu'au 31 mars 2021 sur présentation des billets originaux. Concernant les spectacles du deuxième confinement, entre le 30 octobre et le 15 décembre 2020, les remboursements se feront jusqu'au 31 mars 2021 sur présentation des billets originaux. Pour les spectacles du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, qui sont ou seront annulés, les remboursements se feront jusqu'au 31 juillet 2021 sur présentation des billets originaux. Il est donc demandé au Conseil municipal de valider ces propositions et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire à l'aboutissement de ce dossier.
Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le remboursement maintenant de la piscine.
Alors, donc les modalités de remboursement des tarifications de la piscine suite à la fermeture de la structure. Suite au premier confinement en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19, la ville de Guéret, par délibération numéro DEL-2020-053, ayant pour objet tarif piscine, avait prorogué l'ensemble des cartes entrées animation municipale et comité d'entreprise. Le 29 octobre 2020, à une inspection de la société APAV, la municipalité a décidé de fermer la structure. En conséquence, il est proposé de réaliser des remboursements sur les prestations suivantes achetées dès le 15 mars 2019. Donc les cartes d'entrée, animation municipale, leçons de natation, comité d'entreprise, passe piscine ludothèque. Ce remboursement pourra être réalisé du 15 mars 2021 au 30 juin 2021. Il est demandé au conseil municipal de valider ces propositions et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire à l'aboutissement de ce dossier.
Est-ce qu'il y a des questions? Alors, cette date du 15 mars 2019, qui semble très loin, était la date majeure pour pouvoir rembourser tous les abonnements, qui sont des abonnements de 1 an. Et donc, des personnes avaient pris des cartes en novembre ou en décembre 2019. Donc le 15 mars, c'est vraiment la date la plus reculée pour ne flouer personne. Voilà. Pas de questions, donc des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Maintenant, on passe au cinéma Le Sénéchal.
Alors, en application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, du Code général de la propriété des personnes publiques et du code de la commande publique, la ville de Guéret a délégué la gestion du service public du cinéma au Centre régional de promotion de l'image cinéma, le Sénéchal. Cette concession emporte occupation du domaine public. La période de crise sanitaire, avec notamment la fermeture administrative des centres de cinéma, a dégradé les conditions d'exploitation des activités du concessionnaire au regard de sa situation financière. Ces circonstances ont, par conséquence, bouleversé l'économie générale du contrat en défaveur du titulaire. Ainsi, vu l'article, ça je peux peut-être vous le passer rapidement, donc est décidé d'exonérer le concessionnaire du paiement de redevances d'occupation domaniale pour le premier semestre 2021 et d'habiliter Madame le maire à signer l'avenant si annexé, ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération.
Voilà, on s'est dit que même si la situation devait s'améliorer, les pertes étaient tellement importantes qu'il fallait qu'on aille jusqu'à la fin du premier semestre, et bien entendu à revoir si la situation devait perdurer. Monsieur Correa, vous demandez la parole ?
Madame le maire, merci d'avoir été à l'écoute de notre cinéma. Parce que les cinémas aujourd'hui en région sont très fragiles. Nous avons plus de 150 salles de cinéma indépendantes, ce qui est la plus grande région à ce titre-là, au niveau de cinéma indépendant, et ils sont fragiles. Donc merci d'avoir été à l'écoute de ces cinémas, et on n'a qu'une hâte, et on y travaille d'ailleurs à la région, de savoir comment on pourra à un moment donné réouvrir, parce que effectivement, il y a des protocoles très, très stricts qui existent et qui pourraient permettre de réouvrir les cinémas, peut-être dans un premier temps sur l'éducation à l'image auprès des enfants. Mais nous avons hâte. En attendant, merci de ce geste. La région a aussi, c'est la seule région à l'avoir fait. Nous avons aidé tous les cinémas indépendants, dont le cinéma de Sénéchal, avec une dotation particulière pour les soutenir. Mais il faut toutes les aides. Voilà, donc c'est une belle libération.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Donc je vous propose de valider cette exonération du paiement de la redevance d'occupation. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Monsieur Pingot, toujours, une demande de subvention à la DRAC.
Pour l'année 2021, le musée souhaite continuer le programme intensif de restauration en lien avec l'importante rénovation en cours et le chantier des collections associées. Les interventions concerneront autant des œuvres exposées que des œuvres conservées en réserve qui seront réexposées à la réouverture du musée. Pour enrichir les collections, des acquisitions pourraient être envisagées. Avec l'organisation du chantier des collections, la conservation préventive représentera également d'une part importante des opérations réalisées par le musée. Acquisition de matériel pour conditionner les œuvres d'art et les transporter, acquisition de vitrines muséales. Ayant à cœur de rester accessible au public le plus large par une programmation Or, les murs, les services des publics du musée se déplacent dans les établissements scolaires de la ville de Guéret qui en feront la demande pour intervenir avec des mallettes pédagogiques sur 10 thèmes en relation avec les collections du musée. Ces interventions s'accompagnent d'ateliers de création artistique dans le cadre d'un partenariat avec les archives départementales de la Creuse. Des groupes scolaires sont accueillis aux archives par une présentation à deux voix sur 5 thèmes historiques, mêlant collections du musée et documents d'archives. D'autres partenaires, notamment l'EHPAD Anna Quinco de Guéret, la maison d'arrêt de Guéret et l'hôpital de jour de la Souterraine, sont en suspens depuis le début de l'épidémie, mais seront réactivés dès que la situation sanitaire le permettra. De même, le musée continuera d'organiser ses conférences baptisées les rendez-vous du musée et participera aux événements nationaux, comme les rendez-vous au jardin, en fonction des annonces gouvernementales. Ces activités pourraient bénéficier du concours financier de l'État. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à solliciter pour les actions précitées des subventions au taux le plus élevé possible auprès de la DRAC.
Est-ce qu'il y a des questions ? Bien, donc je vous propose de voter. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Merci. Alors, une proposition de don pour le musée, j'en profiterai pour remercier M. Christophe Moraigne, qui vient de faire un don au musée pour un tableau donc, d'Auguste Leloir. Auguste Leloir, il est né en 1809, il est décédé en 1892, c'était un élève d'Ingres et il a eu le troisième prix de Rome. Donc c'est un portrait de 21/27 qui est très joli, donc merci à M. Moraigne. Monsieur Pingot, je vous passe la parole.
Merci. Proposition de don. En novembre 2020, la ville de Guéret a reçu une proposition de don pour le musée d'art et d'archéologie d'un ensemble de 26 aquarelles de Maurice Leloir. Ces 26 aquarelles ont été réalisées pour illustrer l'ouvrage « 5 mois à Hollywood » avec Douglas Fairbanks, je ne sais pas si je prononce très bien, dans lequel Maurice Leloir raconte son voyage aux États-Unis pour assister le réalisateur du film « Le masque de fer ». Dans la réalisation des décors, des costumes et des carrosses et les acteurs dans l'apprentissage d'une gestuelle historique. Le musée de Guéret possède déjà 11 scènes de tournage et 15 portraits d'acteurs de cette série. L'ensemble proposé en don compte 9 scènes de tournage et 17 lettrines et vient compléter le fonds existant. Je vous passe l'historique sur Maurice Leloir. Le don est proposé par les Amis du musée de Guéret, association soutenant le musée dans ses actions depuis 1926. Vu l'avis très favorable de la commission scientifique régionale du 5 novembre 2020, il est demandé au conseil municipal d'approuver cette acquisition et d'autoriser Madame le maire à l'affecter aux collections du musée d'art et d'archéologie. Elle sera alors inscrite sur l'inventaire réglementaire du musée.
Y a-t-il des questions ? Bien, donc des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Monsieur Pingot, procès-verbaux de recollement pour l'année 2019 et 2020.
Alors, en application de la loi du 4 janvier 2002 relative au musée de France et de la circulaire du 27 juillet 2006 relative au récollement décennal des collections, le musée d'art et d'archéologie de Guéret a entamé son deuxième récollement des collections. Celui-ci s'effectue dans le cadre du chantier des collections préalable au déménagement des réserves. Le récollement consiste à vérifier sur place et sur pièce la présence et l'état sanitaire des œuvres inscrites sur l'inventaire réglementaire. Il est obligatoire et doit avoir lieu tous les 10 ans. Les procès-verbaux récapitulent la méthodologie, les personnels mobilisés ainsi que les résultats des opérations de récollement. En 2019, 1015 biens ont été traités lors de différentes campagnes. En 2020, 1150 biens ont été traités. Cela n'inclut pas les objets physiquement présents dans les réserves du musée, non inscrits sur les registres réglementaires, mais qui sont tout de même traités lors du récollement. Ces objets sont inscrits sur les registres anciens tenus par la Société des sciences au XIXe siècle et début du XXe siècle, où leur provenance est à documenter. Vous avez en pièce annexe tous les inventaires qui ont été faits. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le procès-verbaux, document en annexe, de récollement des collections du musée d'art et d'archéologie de Guéret.
Y a-t-il des questions ? Bien, donc des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Je vais passer la parole à Madame Tonduf sur le soutien aux porteurs de projets de commerce de centre-ville et donc le dispositif d'aide à l'installation